ce matin, n'ayant pas eu la possibilité de me stationner là au-dessus parce que c'était plein, devant le fleuriste, je vous ai apporté une fleur. Aujourd'hui, c'est un jour où... Ah ben non, le Seigneur est ressuscité. Mais c'est vrai que dans notre monde fête aujourd'hui les mamans. Et un jour, j'ai pris en compte la souffrance. La souffrance de celles qui ne sont pas mamans, qui ont toujours voulu l'être et qui ne l'ont jamais été. Mon collègue, ayant fait une grande déclaration « Bonne fête aux mamans », sa femme a quitté l'assemblée en pleurs, car en fait compte, elle n'avait jamais été maman. C'est sans penser à la souffrance de celles qui ont perdu des enfants. C'est sans penser à celles qui, quelque part, sont dans des foyers désunis et qui ont des problèmes avec les enfants. C'est sans oublier, c'est en oubliant ceux et celles qui, tenant à leur maman, l'ont perdu et ne l'ont plus. Moi, je voudrais simplement aujourd'hui parler de la femme. Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur une chose. C'est que dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 et au verset 27, Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Tout à l'heure, notre frère nous a dit qu'il prenait l'écriture dans la Bible second. Ce verset, je ne l'ai pas pris dans la Bible second. Je l'ai pris dans la nouvelle Bible en français courant. Pourquoi, me direz-vous ? Mais tout simplement parce que dans cette nouvelle Bible en français courant, la coordination de la traduction, hein, parce qu'il n'y a pas un seul traducteur, hein, il y en a pas mal pour traduire une Bible, la coordination a été confiée à une femme, une théologienne, bibliste, comme il n'y en a pas beaucoup, et du même coup, la traduction devient un peu différente. Au lieu d'avoir « Dieu créa l'homme », c'est « Dieu créa l'être humain », ce qui est plus correct, dans le sens où, quelque part, Adama, c'est le générique, ce n'est pas l'homme, Ish. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même, ce qui nous amène déjà à réfléchir sur le fait que il n'y a pas que les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Et moi, ça me plaît, cela. Donc, ce que je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui, c'est sur le projet de Dieu pour la femme. Il y a l'Écriture nous parle de quatre époques, de quatre moments dans l'histoire de la création. Il y a le temps de l'Éden qui va se terminer avec la séparation de Dieu et de l'homme et de la femme. Il y a le temps d'Israël, c'est le temps de l'image qui est altérée, car en fin de compte, dans cette séparation d'avec Dieu, il y a le temps où le péché agit, abîme, détériore, détruit. Et puis il y a la venue de Jésus et il y a la croix, mort et ressuscité. À partir de là, il y a une restauration. Pas une restauration comme au premier temps, mais une restauration déjà que nous devons prendre et que nous devrions prendre en compte. Et puis la quatrième période, c'est laquelle ? Celle que nous attendons tous, le retour de Jésus. À ce moment-là, il y aura encore un autre temps. Le projet de Dieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 et verset 26, Dieu dit enfin, faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image ressemblante, qu'il soit maître, des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux, sur la terre, et les gros animaux et les petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. Le projet de Dieu, c'est de faire en sorte que l'être humain soit à son image. Lorsque, par erreur, on montre Dieu avec une barbe blanche, je suis très fier parce que je me dis « Oh, je suis à son image ». Pas du tout. Ce n'est pas du tout de cela dont il est question. Image et ressemblance, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est quelque chose qui est en nous. L'homme et la femme ont dépendent de Dieu, mais Dieu leur a confié et leur a remis cet être intérieur que les autres n'ont pas, cette âme intérieure que les autres n'ont pas. Ils ont mis cette conscience que les animaux n'ont pas. Nous sommes aussi capables de création. Le projet de Dieu continue dans le verset 27. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Et là, je voudrais simplement que vous notiez le singulier qui est dans le texte original et qui est repris dans le Genèse 1, 27, il le créa. Cet être humain, il n'y a pas de différence. Si ce n'est que dans le verset suivant, il les créa, homme et femme. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Si vous reprenez une seconde 1910, vous allez avoir un autre vocabulaire que celui-là, et là, il est plus proche que celui d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec la société dans laquelle nous sommes, nous avons un problème. Car dire « il les créa mâle et femelle » Ah oui, en général, si on dit à un homme que c'est un mâle. Il y en a beaucoup qui sont très, très heureux. Hein? Ils sont très heureux d'être... Mais lorsque l'on dit à une femme, aujourd'hui... Non, moi je ne l'ai pas dit. Hein? Alors là, il y a un problème. Notez tout simplement que ce que le texte hébraïque, Zakar Nukeva, est très difficile à traduire. Et quand on dit homme et femme, c'est encore ménager le chou et la chèvre. Si on dit homme et mâle et femelle, c'est encore... En fait, quand le texte biblique va plus loin que cela, dans son introduction, et c'est ce qu'il nous dit, c'est tout simplement ceci. L'homme... Et la femme, l'être humain est différencié simplement par le sexe dans lequel il est créé. Alors, on ne va pas commencer à faire une bagarre avec les transgenres hein, aujourd'hui, mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, parce que je suis homme, je rends grâce d'être homme, et parce que c'est la volonté de Dieu que je le sois ainsi. Mais si je suis femme, eh ben, nous devrions pouvoir dire « Seigneur, merci d'être une femme ». Aujourd'hui, on est tellement en regard sur l'autre que l'on ne sait plus très bien où on en est, et que malheureusement, il y a une lutte pour pouvoir dominer l'autre. Il les créa, hommes et femmes. En fait, compte, l'Écriture est, il nous dit tout simplement que en Dieu, l'un et l'autre sont égaux. Mais qu'ils sont différents. Continuons notre lecture avec Genèse chapitre 1, verset 28. Puis il les bénit. Il les bénit en leur disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez la terre et dominez-la. » Là aussi, je voudrais aujourd'hui arrêter ma réflexion sur la domination de la terre. Il faudrait peut-être que nous réfléchissions aussi comment nous gérons ce que Dieu nous a donné. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu confie aux êtres humains de pouvoir gérer la création et de la dominer. Je passe au chapitre 2, verset 18. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, on est en train de remettre le focus sur l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire, dit-il, une aide qui sera son vis-à-vis. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. Oh, combien l'Écriture est précise et combien notre compréhension et la lecture que nous faisons de ce texte est problématique. Afin de servir notre projet. Mais le projet de Dieu, c'est quoi? Alors, je voudrais simplement reprendre quelques traductions, tout d'abord dans la NBS, « Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis ». La colombe, la seconde 21, la summer 2015, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. On reste un petit peu dans la même. Darby. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. La Bible, en français courant, ancienne version, je vais le secourir en faisant une sorte de partenaire. L'aide devient secours, le vis-à-vis devient partenaire. C'est étrange, mais ça montre bien que l'écrit de la Bible, quand on essaye de la traduire, est... parfois donne des sens différents. La TOB, je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Allons voir du côté des rabbins. Kolbo, le grand rabbin Citruc, dit « Je lui ferai une aide digne de lui ». Jérusalem, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Est-ce que je suis bien assorti avec ma femme ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et puis, une autre traduction par un juif qui est Chouraki. Je lui ferai une aide contre lui. Alors, quand on lit ça, c'est contre tout contre ou contre contre. Problème, hein ? Voilà. Donc, on est avec le problème d'abord du premier mot. Aide. En hébreu, Ezer. Vous connaissez tous le fils adoptif d'Abraham, qui s'appelle le fils adoptif de... Hein? Ah non, il y en a un avant. C'est Ebenezer. Ou Eliezer. J'ai un doute là. L'aide... Ezer, c'est tout ce qui est de l'aide, du secours. Cela vient du verbe azar. Aider, secourir. Pimpon, pimpon, pimpon. Ce qui voudrait dire que l'aide que Dieu donne à l'homme est quelqu'un pour secourir l'homme. Donc, l'homme a un souci. Quel souci ? Ah ben oui, mais c'est un petit peu ça, hein, notre problème. Dans notre compréhension habituelle, une aide, c'est une petite main. Quand ma femme me demande de faire la vaisselle, bon... Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça dont il est question. Car en fait, compte, lorsque je regarde dans le texte, la note du semeur, la semeur 2015, qui était le coordinateur ? Ils étaient deux en 2015. Un que vous ne connaissez peut-être pas, Jacques Buchholz, et le deuxième... Vous devriez le connaître. C'était Alfred Kuhn, qui est bien connu dans nos assemblées. Et En fait, voici ce qui est écrit. Dans l'Ancien Testament, le mot est souvent utilisé pour exprimer l'aide que Dieu apporte à son peuple. 21 fois. Souvenez-vous de ce psaume que nous connaissons bien. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qui secourt le pèlerin? C'est Dieu qui vient à son secours. En fin de compte, ce n'est que 5 fois que cette aide ne concerne pas la personne du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est qu'en fin de compte, si Dieu m'accorde à moi un homme, une femme, comme aide, ce n'est en tout cas pas une petite main, c'est quelqu'un qui a sa dimension à lui. Il n'implique donc aucune infériorité de la femme par rapport à l'homme, et n'implique bien sûr pas non plus supériorité de celle-ci. Aujourd'hui, on est dans les mouvements qui, en fin de compte, il faudrait que la femme puisse supplanter l'homme, ça m'énerve. Mais lorsque je vois le contraire, ça m'énerve aussi. Il faudrait que nous puissions revenir au plan de Dieu à cet égard-là. En même temps que la femme a été créée pour être l'aide de l'homme, cela détermine sa vocation particulière. Alors, en fait, voilà une chose qui, moi, m'interpelle et qui devrait nous interpeller tous et toutes. La vocation particulière, dès le commencement, dès la création du monde, la femme a cette vocation de venir au secours d'eux. Alors, elle vient au secours des enfants, non, elle devrait avoir comme vocation première de venir à mon secours, moi qui suis en souci et en problème. Faut-il que je l'admette? Dès l'origine, l'être humain est un être avec. Nous sommes un être en relation. Être créé à l'image de Dieu, c'est être un être en relation avec. Dans l'épanouissement, dont l'épanouissement ne se réalise que dans la relation à l'autre. C'est lorsque je puis avoir cette relation à l'autre qu'en fin de compte, je suis capable de grandir et de progresser. Le modèle biblique qui nous est donné de la relation à l'autre, n'est-ce pas celui de la Trinité? Alors je sais que ça ne se fait pas dans une assemblée évangélique, mais je le fais quand même, parce que j'ose tout. Si un jour vous avez l'occasion de regarder la Trinité de Roublev, qui est un peintre russe, du 15e siècle, essayez de regarder les yeux des personnages qu'il représente. Il a représenté la Trinité, et regardez les yeux. Et regardez comment les yeux observent l'autre et communiquent quelque chose. C'est intéressant de voir comment Eh bien, il y a des peintres qui ont quelque part compris quelque chose à cette relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, où le Jésus dit « Voici l'heure où le Fils glorifiera le Père et où le Père glorifiera le Fils ». Et toujours dans l'évangile de Jean, il y a cette pensée « Je vous enverrai le Consolateur et il rendra gloire ». Une aide que je traduirai dans mon vocabulaire, une aide à son encontre. Parce que j'ai lu le texte hébreu, et pour moi, le mot qui est utilisé, qui vient de nagad, le verbe nagad, c'est mettre en évidence. Attendez, je ne sais plus où je suis. Voilà. Mettre en évidence, raconter, rendre connu. Et on peut continuer dans un mode que l'on appelle le ifil en hébreu, dire, déclarer, annoncer, raconter, rapporter, faire, connaître, exposer, informer, publier, proclamer, avouer, reconnaître, confesser. Ça, c'est le verbe nagad. En fait, aujourd'hui, je suis privé de ma moitié. Elle n'a pas pu m'accompagner aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous ont dit « Mais Anne-Marie n'est pas avec toi. » Ben oui, elle n'est pas bien depuis hier, donc elle n'a pas pu venir avec moi. Mais nous sommes toujours deux. Et lorsque, en fin de compte, nous terminons un culte, bien souvent, les gens viennent me trouver et certains, hein, pas tout le monde, mais certains viennent me dire « Ah, merci pour la parole, merci parce que j'ai compris ceci, merci pour cela. » Le plus grand nombre ne me dit rien. Hein. Je n'ai que des « merci, c'était bien ». À quel moment va arriver la vérité ? Ben, la vérité va arriver lorsque les portières de la voiture se ferment, 100 mètres après. Ma femme me dit « Oui, mais dans ta prédication, tu as dit, je ne sais combien, enfin, les comptes, hein, en fin de compte, machin, bazar, en veux-tu, en voilà, etc. Là, tu n'as pas été clair, là, tu n'as pas été clair, là, c'est pas tout à fait clair dans ta pensée. » Et moi, je suis heureux, car la fois suivante, je modifie ma façon de parler et je peux ainsi vous donner la possibilité de mieux comprendre ce que j'ai dit la semaine avant. Voilà en quoi j'ai besoin d'un vis-à-vis qui ne me dise pas « Oh, t'es le plus beau !» C'est le meilleur, ça je le sais. Hein? Ça je le sais. Mais qui me dit qui réellement je suis. Alors, en fait, mon souci, parce que je connais mes classiques, hein, n'est pas forcément d'avoir un miroir qui me dit que je suis la plus belle, non, le plus beau. La fécondité de l'opposition reste difficile à penser. L'autre, en tant qu'aide, en étant à l'encontre, et non pas en étant avec. Donc pouvoir dire ce qui est vrai et pas forcément ce qui va dans le sens de celui à qui je le dis. Combien de fois est-ce que j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas la capacité, la possibilité de dire à l'autre « ça va pas ». C'est l'altérité qui brise la coquille de la solitude et non de l'identité. C'est lorsque je rencontre quelqu'un d'autre qu'en fait compte, je puis vraiment grandir. Mais si l'autre résiste, alors l'un peut d'autant mieux exister et réciproquement. Faut-il encore savoir comment être à l'encontre? Alors c'est vrai que savoir dire les choses, le moment pour le dire, attendre le bon moment, c'est une chose. Et puis, de notre côté, les hommes, il faudrait pouvoir l'accepter. Dans la Genèse au chapitre 2, je continue. Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel. Vous avez déjà réfléchi. Dieu dit, je vais lui faire une aide, et il fait des animaux. C'est curieux ça quand même. Hein ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il les amena vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme dont l'homme l'appellerait. L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel, tous les oiseaux de la campagne, mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu commencer par tout simplement lui faire une femme ? Non ? Pourquoi est-ce qu'il lui fait des animaux ? Pourquoi est-ce qu'il lui fait des jouets ? Pourquoi ? Et ça n'a pas de sens. Si ce n'est que peut-être nous n'avons pas fait attention au fait qu'il les appela de leur nom. Dans l'Écriture, mais dans la société aussi dans laquelle nous sommes, appeler quelqu'un par son nom, c'est avoir un pouvoir sur lui. Quel est le nom de Dieu ? On aurait pu lire Exode chapitre 20 tout à l'heure. Tu n'invoqueras pas le Seigneur ton Dieu, tu n'utiliseras pas son nom en vain. Quel est le nom de Dieu ? Dieu n'a pas de nom. Quand Moïse essaye de savoir au buisson ardent, Exode chapitre 3, verset 14, « Qui dirais-je qui m'envoie ?» dit Moïse. Dieu lui répond quoi ? Je suis. J'existe. Mais il n'y a pas de nom. Il n'a pas un nom. Moïse a essayé de jouer au plus fin avec Dieu, mais Dieu ne lui a pas donné son nom. Il lui a dit simplement, je suis, j'existe. Quel est le nom de Jésus dans le ciel ? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est quel nom ? Donc on continue à l'appeler par le nom qu'il nous a laissé, Dieu Sauveur. Yeshua, Jésus. Appeler quelqu'un par son nom, à votre avis, qui dit à notre roi « Salut Philippe, comment vas-tu ?» Bon, à mon avis, la reine a peut-être la possibilité de lui dire ça comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas à ceux qui le visitent. Quoique, il y a des prêtres qui l'ont fait. À leur mariage. Vous vous souvenez de ça? Du prêtre qui a officié et qui tutoyait Philippe et son épouse. Il n'y a pas d'aide qui fût à son vis-à-vis. Alors le Seigneur fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Voilà le Seigneur qui sert maintenant d'anesthésiste. Pas du tout. Si vous regardez dans Genèse chapitre 15, verset 12, en fait, vous allez retrouver le même mot, la même torpeur. C'est le grand passage de l'Alliance, où Dieu fait alliance avec Abraham, où Dieu va donner la vision de ces animaux qui sont coupés en deux et ce feu qui passe entre les animaux. C'est cette vision de l'Alliance. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. En fait, compte, l'Écriture ne fait qu'une chose, c'est de commencer l'idée qu'il va y avoir une alliance. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alors là, j'aime bien la réflexion des rabbins. Alors, les rabbins n'ont pas compté pour savoir combien de côtes ils avaient, hein, s'il leur en manquait une ou pas. Mais simplement, ils ont cette réflexion en disant, mais si Dieu avait pris un os de la tête, la femme aurait dominé l'homme. Mais s'il avait pris un os du pied, l'homme aurait écrasé la femme. S'il avait pris un os du devant, la femme aurait toujours été avant l'homme. S'il avait pris un os derrière, la femme aurait toujours été derrière. Là, c'est à côté de lui, c'est à côté. Et je trouve dans cette sagesse quelque chose qui, moi, me parle. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise. En fait, compte, littéralement, il faudrait dire, il construisit une femme de la côte. Mais ça sonne mal, construire. Pourtant, en fait, compte, il y a une chose, c'est que le verbe bana est utilisé ici. On bâtit une maison, on bâtit une famille. Ben Yosef, fils de Joseph, Ben vient du verbe bana. Tout ça nous dit qu'en fait compte, quand Dieu a le projet et qu'il est en train de façonner la femme, il est en train aussi de la façonner afin que la famille puisse se créer. Et il l'amena vers l'homme. C'est Dieu qui préside la cérémonie. L'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os la chair de ma chair. Alors, combien de fois est-ce que nous lisons cela, nous connaissons cette phrase, mais en fin de compte, de nouveau, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Or, cette phrase, c'est quoi ? Regardez simplement dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 5, verset 2, au deuxième livre de Samuel, chapitre 19, verset 13, etc., etc., etc. Cette phrase est une phrase d'alliance, où David fait alliance avec les anciens du peuple d'Israël, où David fait alliance avec le peuple d'Israël. On est dans un vocabulaire où l'on prend l'autre dans une alliance. C'est l'os de mes os, ça veut dire je fais alliance avec. Celle-ci, on l'appellera femme. Ah ! Là, il y a un souci. On a utilisé le mot appeler. Mais on l'appelle comment ? En fin de compte, Isha. Car, en dit-il, c'est de l'homme qu'elle a été prise, Ish. Donc, quand il dit, tout simplement, on l'appellera Isha, Adam va dire, en fin de compte, celle-ci est mon féminin. Et je suis son masculin. Mais ça n'a rien à voir avec le moment de pouvoir avoir autorité. Quand il fait alliance avec la femme, il ne prend pas autorité sur elle. À quel moment est-ce que femme va avoir un nom. Son nom lui sera donné au chapitre 3, au verset 20, où l'homme dit « Celle-ci sera appelée Ève, car elle est la mère des vivants. » Là, il l'appelle Ève. Il prend autorité sur elle et il va la dominer. Car en fin de compte, vous allez avoir encore quelques chapitres où l'homme, c'est l'homme. Nos Bibles disent Adam, pas facilité, mais en fin de compte, ce n'est que bien d'après Genèse 5 qu'il va être appelé Adam. Donc il y a là quelque chose qui est très important. Dieu veut qu'il y ait la construction de la famille. Dieu désire qu'il y ait une alliance. La seule chose, c'est que va arriver le temps de là, du péché, et là, il va y avoir un problème de conflit. Et le problème de conflit, en fait, quand on vient de ceci, c'est que il, Satan, dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, c'est le moment où il va y avoir péché. Genèse chapitre 3, verset 16, à la femme, Dieu dit, ton désir se portera sur ton mari, et lui, il te dominera. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas de l'ordre de la malédiction. C'est tout simplement parce que, en fin de compte, Dieu va dire à l'homme, à la femme et à Satan ce qui va leur arriver. Et en fin de compte, la domination de l'homme sur la femme, c'est la domination à cause du péché. Chapitre 3, verset 20, l'homme appela sa femme du nom de Ève, la vivante. Le projet de l'accusateur, c'est la division, c'est la mort, c'est la violence, c'est le pouvoir, c'est l'asservissement, c'est le profit. Le projet de Dieu est-il dans l'impasse? Eh bien, je voudrais simplement reprendre la couverture de ce livre, l'homme qui répare les femmes. Les femmes vivent la violence qui vous, la femme vit les violences des hommes, la destruction de la famille, mais il y a des hommes qui se lèvent et qui se lèvent pour faire en sorte que ce projet de violence s'arrête, pour que le projet de l'accusateur ne continue pas. Des hommes qui sont passés par la croix. Le projet de l'accusateur, en fin de compte, il est et il se termine à la croix de Golgotha. L'Épître aux Colossiens nous dit « Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, en triomphant d'elles par la croix. » La puissance de la croix, c'est l'accomplissement des prophéties. Car en Genèse chapitre 3, verset 14, Dieu avait dit au serpent, « Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Frères et sœurs, Dieu avait déjà prévu. Dès le départ, dès la Genèse, avant la séparation, qu'il y aurait une restauration. Qu'en fin de compte, Jésus était déjà prévu, la croix était déjà prévue, et nous savons que lorsque la croix est dressée et lorsque l'on met Jésus sur la croix, il y en a un qui jubile, c'est Satan. Mais au dimanche de Pâques, la puissance du Saint-Esprit a fait que Jésus est ressuscité. Ce que l'on avait enfermé est vivant. Celui qui était mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, en fin de compte, nous avons cette certitude que le plan de Dieu, il devrait être rétabli. À nous, Église, hommes et femmes du Seigneur, de pouvoir rétablir la relation. Et de faire en sorte que ça ne soit plus une question de pouvoir, de violence, mais que ça soit une question de relation entre les uns et les autres. Je termine par ceci. Jésus ressuscité confie à qui le témoignage de sa résurrection? En premier lieu, aux femmes. C'est elles qui sont près du tombeau. Les femmes, dans la législation romaine, dans la société juive de l'époque, n'ont aucun pouvoir, n'ont aucun crédit, n'ont aucune dignité. Elles ne peuvent en aucun cas témoigner de quoi que ce soit dans un tribunal. C'est Jésus qui prend et qui donne aux femmes cette vocation, allez dire à mes disciples que je suis ressuscité. Frères et sœurs, le Seigneur remet en place les choses du départ, mais à nous, en fin de compte, de pouvoir relire l'Écriture, non pas au travers de notre culture, de notre éducation, mais au travers de ce que l'Écriture dit réellement. Pour rétablir des relations correctes les uns avec les autres, les hommes avec les femmes avec les hommes. Que le Seigneur nous soit en aide. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire combien encore aujourd'hui ta parole nous interpelle. Combien aujourd'hui encore nous voyons combien nous sommes loin de ce que tu voudrais, de ce que tu avais voulu au départ. Mais Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous n'avons pas besoin d'une fête mondaine pour pouvoir rétablir des liens et des liens avec celle que tu as mis à nos côtés. Père, merci de ce que tu as fait de nous, ton peuple, des filles et des fils du royaume. Merci de ce que un jour viendra après ta venue dans la gloire, il n'y aura plus ni homme ni femme. Mais Seigneur, qu'aujourd'hui ton Église puisse témoigner de cela, puisse vivre de cela et puisse faire en sorte que la relation ne soit pas une relation d'autorité qui écrase, mais qui soit une relation d'autorité qui serve. Seigneur, merci de nous donner cela. Merci de nous interpeller, Seigneur, par ta parole. Merci de nous combler de ton esprit afin que nous soyons capables de faire et d'avancer vers ton royaume. Seigneur, bénis ton Église ici à Jumet. Merci pour les frères et les sœurs qui en font partie. Merci pour ceux et celles qui vont faire partie de cette Église. Seigneur, nous prions vraiment pour que ton assemblée grandisse et qu'elle soit un phare dans cette région de Charleroi. Je te le demande au nom puissant de Jésus. Amen.